Il est 19h20 au cœur de ce 18-20. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 à la veille d'une semaine spéciale sur notre antenne en soutien aux étudiants, aux jeunes qui souffrent particulièrement des conséquences du Covid. Et puisque la radio est un média de partage, nous commençons ce soir à mobiliser les réseaux, les employeurs, les aides psychologiques et à relayer les magnifiques actions de terrain, celles notamment de Linky, une association qui distribue des colis alimentaires aux étudiants en situation de précarité. Bonsoir Emma.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en studio, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante à Paris. Linky vous permet de vivre mieux au quotidien cette aide alimentaire, Emma ?
Alors, j'ai fait appel à Linky deux fois. J'y suis allée pour la première fois en milieu de décembre, fin d'année.
Oui.
Et j'y suis allée parce que mon budget mensuel ne me permet pas tout le temps de combler, de pouvoir manger. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidée et j'étais très surprise et très émue de ce qu'ils font pour nous.
Oui, ça vous a fait du bien aussi de parler à d'autres jeunes et de voir que malheureusement vous partagez peut-être cette détresse, mais qu'il y avait des gens à votre écoute, des gens qui étaient là.
Oui, ça me fait du bien, mais ça me rend triste aussi d'un côté de voir qu'il y a autant de personnes qui sont dans la même situation que moi. Mais d'un côté, ça me réconforte aussi de savoir que je ne suis pas toute seule et qu'on est entre nous. Ensemble,
bien sûr.
Dans la même situation.
Vous êtes entourée, Emma, ce soir en studio d'Anne Mortureux. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous qui êtes psychologue clinicienne, vous travaillez vraiment avec les jeunes depuis une dizaine d'années, avec la plateforme aussi Nightline qu'a créée Patrick Skehan. Vous êtes délégué général de Nightline France. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Toutes ces initiatives, eh bien, elles se coordonnent pour soulager un peu le quotidien de ces étudiants. Ça lui a fait du bien, dit Emma, mais ça a fait de la peine aussi à cette étudiante de voir que malheureusement, la situation, la précarité des jeunes s'enflamme.
La précarité, bien sûr, le sujet de la précarité est un sujet qui va durer parce qu'on sait qu'il y a la crise du Covid actuellement, la crise sanitaire, et on est quand même très inquiet de la suite pour la crise économique qui risque de venir. Mais c'est vrai, je pense que disait Emma aussi, ces lieux qui permettent de retrouver un petit peu du monde sont essentiels. Alors, il y a bien sûr les cours, quand c'est possible, parce que petit à petit, il y a quelques cours qui se remettent en présentiel et tous les jeunes que je reçois me disent combien ça leur fait du bien. Il y a également...
Ne serait-ce qu'une fois par semaine, ce qui va être le cas pour vous, Emma. Hein.
Moi, j'ai cours en présentiel parce que comme je suis dans un atelier, on ne peut pas apprendre un métier d'art à distance, c'est vraiment pas possible.
Donc, ils vous ont maintenu quand même un certain nombre de cours.
Et
ça, c'est essentiel.
Ça me paraît très important et également... ça étonne un peu les étudiants plus, qui ont un peu d'expérience, qui sont plats en première année, c'est de maintenir les activités usuelles de tant qu'on peut liées à la vie sociale.
Oui, vous avez envie de vie sauvage, mais on peut comprendre.
Lapsus. lapsus tout à fait. Mais l'idée, par exemple, il y a des ce qu'on appelle des campagnes, parce que je travaille dans des écoles, pour élire les représentants, les bureaux des élèves. C'est absolument inconcevable d'imaginer une campagne de bureau d'élèves sur Zoom. Eh bien, si, on le fait.
Mais oui.
Et c'est mieux.
C'est mieux de le maintenir.
Même avec Zoom et puis quelques activités, la livraison de crêpes qui fait partie de ces campagnes-là. Mais c'est juste pour dire que les étudiants sont vraiment, vraiment en difficulté aujourd'hui. Je pense que c'est important de dire que les étudiants, c'est une période de la vie qui est difficile de toute manière.
Oui.
Avoir 20 ans, je ne sais pas pourquoi, c'est difficile d'avoir 20 ans.
Mais il l'a bien précisé, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, Patrick Skehan, vous qui êtes délégué général de Nightline France, c'est difficile d'avoir 20 ans tout court, difficile d'avoir 20 ans en 2020, parce qu'on se cherche, parce qu'on n'a pas forcément d'horizon, pas de perspective de travail. Vous êtes suffisamment armé vis-à-vis de ces questions-là, parce que vous avez créé votre plateforme, pas au cœur du Covid, mais il y a 4 ans déjà, une plateforme d'écoute parce que cela manquait en France justement que des jeunes parlent à d'autres jeunes et partagent leurs expériences, voire leurs souffrances.
C'est bien ça, j'ai lancé Nightline en novembre 2017 et depuis chaque année on a vu une augmentation énorme dans le nombre de contacts de la part des étudiants qui sont en détresse, qui ont besoin d'être écoutés. Notre première année c'était 200 contacts, l'année d'après c'était 1500, donc une augmentation de 750%, l'année d'après c'était 3000. Et puis cette année, on prévoit d'avoir plus que 7000 contacts pendant l'année. Donc je pense que quelque chose qui est très important à retenir, c'est qu'on parle beaucoup de la crise de la santé mentale étudiante maintenant, mais c'est parce que la crise sanitaire a rendu cette crise de santé mentale étudiante visible. Ça existait avant et ça va continuer à exister après. Et il faut qu'on, faut qu'on ne l'oublie pas.
Ouais, oui, sachant que 20% des étudiants en temps normal, si l'on met des guillemets, en France, vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. On n'a pas envie d'entrevoir la crise économique qui se profile, mais c'est une réalité. Anne, Emma, je ne sais pas si vous avez déjà bénéficié de ce service d'écoute Nightline. Est-ce que vous en avez besoin, à titre personnel, à partir de 21h, de pouvoir appeler des jeunes bénévoles qui prendraient de leur temps pour vous?
Actuellement, je ne pense pas que j'en ai besoin, mais il y a 2 ans, j'ai fait des études à Paris, donc j'avais 18 ans. Mmh. Je suis partie de chez moi, de Marseille, dans une nouvelle ville, en quittant mes parents. Et à ce moment-là, je pense que j'en aurais eu besoin.
Oui, aujourd'hui, vous avez réussi à vous enraciner, à avoir quand même cette petite bulle sociale qui vous permet de ne pas vous sentir trop seule.
Aujourd'hui, j'ai vécu du coup cette mauvaise expérience dans une certaine école. J'ai arrêté, j'ai repris mes études et en fait cette expérience m'a permis de me forger, de savoir aussi ce qui n'allait pas chez moi, de mieux me connaître, de savoir ce que je veux dans mes études, dans mon futur. Et c'était important de vivre cet entre guillemets échec pour maintenant trouver ma vraie voie.
Oui, et là aujourd'hui, vous voyez votre avenir comment ?
Oula, alors c'est une question très compliquée. En fait, je ne vois pas trop d'avenir. Financièrement, c'est très compliqué parce que j'ai un crédit étudiant et je sais que dans 2 ans, il va falloir que je le rembourse.
Combien ?
40 000 euros.
Ah oui, pour financer vos études.
C'est très important.
Oui.
Comme somme. Et partir dans la vie, je vais avoir quoi, 24 ans, avec 40 000 euros à rembourser en sortant d'un diplôme qui plus est. En plus, je fais un diplôme qui est tout nouveau. Oui, qui est tout nouveau, qui remplace un ancien diplôme. Il n'y a pas encore de sortant de ce diplôme. Du coup, on ne sait pas si on va trouver du travail, si les professionnels du métier vont vouloir des personnes de ce nouveau diplôme qui, en plus, fait débat en ce moment. Et du coup, ça me fait très peur. Je me demande si je vais réussir à trouver du travail, si je vais pouvoir directement rembourser mon crédit, si je vais réussir à réaliser mes rêves qui sont de vivre de mon métier. Peut-être pas, je sortirai peut-être pas céramiste et je n'aurai peut-être pas mon atelier en sortant de mon diplôme.
Alors ça vous empêche de dormir ou ça vous donne quand même une énergie au quotidien ?
Ça m'angoisse énormément. C'est quand je suis toute seule, j'y pense forcément. Puis j'ai mes parents aussi qui m'en parlent. J'ai plein de gens autour de moi, on en parle entre nous. J'ai mes copines qui sont en troisième année qui vont sortir justement de ce diplôme. Je les vois. Elles ne savent pas où aller non plus. C'est compliqué. Je pense que la précarité, elle est financière, mais aussi psychologique.
Bien sûr. Ouais.
On est en fait sans cesse dans l'incertitude et c'est ça qui dure en fait.
C'est ce que vous constatez, Anne, très clairement.
Je trouve qu'il y a deux choses très très importantes dans ce que vient de dire Emma. Pour moi, c'est d'une part ce qui se passe quand on arrive dans le monde des études et qu'on est seul et qu'on est loin et qu'il y a plein de choses à gérer et que ce n'est pas facile. Ouais. C'est quand même un moment compliqué. Et puis l'autre chose, c'est l'incertitude. On est dans un moment d'incertitude et le Covid vient rajouter là-dessus. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup plus de troubles anxieux qu'auparavant. Vraiment beaucoup, beaucoup plus liés à la question « et si ?» Et si ceci ? Et si je ne trouve pas ? Et si mon diplôme ?
Oui.
Et si...
Qui revient comme une ritournelle au quotidien.
Et je rebondis parce que les nightlines, les lignes d'écoute, les chats, c'est formidable. C'est vraiment... pour nous, un soulagement de savoir que le soir, il y a quelqu'un. Mais ça pose aussi une vraie question que Patrice connaît bien parce qu'on en parle. Quand un étudiant appelle le soir et qu'il ne va pas bien et qu'il dit ce qui ne va pas parce que c'est, qu'il partage, même si l'écoutant extrêmement bien formé dit « Oula, là, ce que vous me dites, il faudrait peut-être en parler à un professionnel », quand on a vidé son sac une fois, ce n'est pas simple de retourner voir quelqu'un. Donc, il y a une vraie question. Quand on parle de l'articulation de notre offre de prise en charge avec les lignes d'écoute, les chats et les professionnels, c'est une question qui n'est pas simple du tout
Bien sûr.
À travailler.
Et comment vous gérez ça, Patrick Skéan, avec Nightline, avec ces étudiants qui sont à l'écoute, ces bénévoles, ces jeunes qui sont à l'écoute d'autres jeunes, pour libérer la parole ?
Évidemment, l'écoute est extrêmement importante et nos bénévoles font un travail qui est formidable, mais c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants qui ont besoin de plus qu'une écoute. Souvent, on a besoin d'orienter les étudiants vers les services professionnels, parce qu'il y a des étudiants qui en ont besoin, sauf que ces services professionnels en France qui sont dédiés aux étudiants sont extrêmement sous-dotés. Et on le voit particulièrement avec la crise sanitaire. En France, nous avions avant la crise un psychologue pour 30 000 étudiants. Imaginez être seul face à tant de personnes. La recommandation internationale est d'un psychologue pour 1500 étudiants.
Évidemment.
Puis la crise sanitaire arrive, les étudiants prennent une claque énorme et ces services qui étaient déjà débordés avant se retrouvent complètement démunis face à la vague d'étudiants qui arrivent, qui veulent consulter. Donc, ce n'est pas une surprise quand on voit des études qui sortent qui disent que seulement 12% des étudiants qui sont en difficulté psychologique pendant la crise sanitaire ont consulté un professionnel de santé mentale, seulement 3% dans les services de santé universitaires. Donc, nous avons un psychologue pour 30 000 étudiants et le gouvernement annonce en décembre le recrutement de 80 psychologues de plus. Sauf que si on se compare avec d'autres pays, comme l'Écosse, par exemple, un pays qui avait un psychologue pour 4 000 étudiants avant la crise, donc presque 8 psychologues de plus que la France pour chaque étudiant, qu'est-ce qu'ils font le gouvernement écossais en septembre? Ils annoncent le recrutement de 80 psychologues aussi. Donc, si on se compare, on a la France qui a un psychologue pour 30 000 étudiants.
Oui, évidemment. On ne peut pas comparer ces petites armées-là. Et cette sous-dotation, elle est terrible. Elle est plus criante encore au cœur de cette crise. Et pourtant, vous avez envie d'aider. Hein. C'est un service magnifique pour libérer la parole, pour améliorer le bien-être mental des étudiants, des étudiantes, des jeunes en France. Emma, est-ce que vous auriez envie, vous, peut-être? Est-ce que vous auriez l'énergie pour être vous-même bénévole et pour être à l'écoute d'autres étudiants pour les aider?
Bah oui, on en parlait tout à l'heure. Je disais que ça m'intéressait. En fait, j'ai reçu moi-même des messages d'encouragement venus d'autres étudiants. Et ça m'a réconfortée en me disant que je n'étais pas la seule et que même eux, ils étaient contents de m'envoyer leur soutien. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était... chargée d'humanité, ça m'a beaucoup émue, j'en ai beaucoup pleuré et du coup, je serais très contente de faire ça.
Bah, c'est magnifique, voilà, vous avez une bénévole de plus pour Nightline France, dont vous êtes déléguée générale. Patrick Skehan, Emma Lacaze et Anne Mortureux, psychologue clinicienne, vous qui travaillez aussi conjointement avec ces services. Merci d'avoir mis un peu la lumière sur cette précarité terrible. Tout ce qui va se jouer dans les semaines et les mois prochains et notre semaine spéciale sur Europe 1 que nous amorçons dès ce soir. Merci à vous trois infiniment, merci beaucoup.